Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Il est 11h, passé de quelques secondes. Nouveau numéro de votre émission littéraire au cours duquel nous allons diffuser la deuxième table ronde du deuxième salon du livre de Blanzy. C'était en Saône-et-Loire. Table ronde que j'ai animée à l'occasion de ce salon et qui a été enregistrée le 16 septembre dernier et que nous vous proposons aujourd'hui à l'antenne. Table ronde qui réunissait trois auteurs, Béatrice Romy pour Une vie hors du commun, Payons-nous le karma de nos ancêtres aux éditions Baudelaire, Guy Paqui pour Petites histoires du showbiz aux éditions des Presses du Midi, Guy Paqui qui est artiste, musicien, animateur et qui a géré les carrières d'un grand nombre d'artistes, notamment Michel Sardou et Marie Myriam. Vous en saurez un petit peu plus au cours de ce numéro de Wagon Livre. Et puis nous allons ouvrir cette émission avec le troisième auteur qui participait à cette table ronde du Salon du Livre de Blanzy, à savoir Sylvie Arnoux pour La guerre de Louise, 1914-1921, parcours de déportés civils en Allemagne, c'est aux éditions Entretemps Éditions. En découvrant les carnets de guerre de sa grand-mère, Louise Collignon, déportée dans un camp en Allemagne à 17 ans, Sylvie Arnoux a plongé dans le drame vécu par des milliers de civils lorrains en 1914. Elle nous invite donc à suivre de la Lorraine au sud de la France, en passant par l'Allemagne et la Suisse, les parcours croisés de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants. Loin des récits militaires, les textes et chansons de Louise révèlent la force de vie et l'humour avec lesquels cette jeune femme affronte cette année de guerre. L'ouvrage de Sylvie Arnoux est préfacé par Annette Becker, professeure d'histoire contemporaine à l'université Paris-Ouest Nanterre. C'est un très beau livre illustré de nombreux témoignages et de documents inédits. Alors comment Sylvie Arnoux a-t-elle procédé? Explication à notre micro, c'était lors de la table ronde du Salon du Livre de Blanzy le 16 septembre dernier.
Ça a été très 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 long. J'ai d'abord scanné tous les carnets. J'ai scanné les carnets, j'ai essayé de les lire, c'était pas toujours très facile. C'était écrit très serré, mais je crois que dès le départ, j'ai été surprise par ce que je lisais au fur et à mesure. Lire que sa grand-mère, qui a 17 ans, dit dans un texte qu'elle est prisonnière en Allemagne, en Bavière, en 1914. Je suis restée assez étonnée, je n'en avais jamais entendu parler.
Alors, vous plongez dans ces carnets de guerre, on peut dire, de Louise.
Tout à fait.
Alors, Louise, elle a 17 ans en 1914 et elle habite en Lorraine.
En Lorraine française.
En Lorraine française. Et donc, c'est vrai que Annette Becker le souligne dans la préface. Mm-hmm. Et nous sommes encore dans la phase des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, hein, cette guerre de la Grande Boucherie, où l'on s'attache plus souvent aux épisodes militaires et on oublie souvent un peu la vie des civils. Et là, vous rendez hommage aux civils et notamment à ces civils français, ces Lorrains, qui ont été déportés en Allemagne. Alors, le petit village de Louise, au départ, c'est Herbeville, qui se trouve, lui, en fait, malheureusement, pas très loin de la frontière et très rapidement au cœur du conflit.
Tout à fait. Dès le départ, il est situé donc sous les Hauts-de-Meuse, en dessous des Éparges. Alors les Éparges, pour ceux qui connaissent la guerre de 14-18, qui s'intéressent, c'est un haut lieu de la guerre. Il n'est pas très loin de Metz, donc de la frontière avec l'Allemagne, dans une plaine qui est d'une platitude, j'en connais peu comme ça. Donc les Allemands qui voulaient rentrer en France ont essayé de passer par la Belgique au départ, n'ont pas pu. ne pouvaient plus passer par Verdun, qui avait été fortifié après la guerre de 1870. Et ils ont essayé de franchir ces fameux hauts de Meuse, qui n'étaient pas si hauts, 230 mètres, c'est rien ici, pour aller vers Paris. Et au pied des hauts de Meuse, il y avait ces fameux petits villages qu'on appelle les villages sous les côtes, ils ont tous subi la déportation quasiment, comme le village d'Herbeville, le village de ma grand-mère.
Alors ce sont des civils, hein, des femmes, des vieillards, des enfants. Oui. Alors il y avait les camps pour les militaires français, les hommes de l'armée française étaient eux dans des baraquements à part, dans des camps à part. Civils étaient enfermés dans d'immenses baraquements et des conditions de vie en Bavière, alors des conditions climatiques redoutables, d'hygiène déplorable, les plus faibles, les vieillards meurent, les enfants également. Louise est une survivante ?
Elle a survécu, pourtant elle a été malade sur le camp, elle a été malade en rentrant en France, elle est restée longtemps, enfin quelques temps au bord du lac Léman avant d'être rapatriée. Elle s'est retrouvée dans la Drôme, d'où mes origines drômoises actuelles. Mais elle a survécu, heureusement pour moi d'ailleurs, sinon je ne serais pas là, alors qu'il y avait 2 morts par jour sur le camp. C'était des conditions sanitaires déplorables. Les gens ont été pris chez eux, ont été tenus en otage pendant quelques semaines dans leur propre village, menacés de mort. Et après, on les a fait marcher jusqu'à la première gare vers la frontière allemande. On les a mis dans des trains sans leur dire pourquoi. Et on les a envoyés en Allemagne. Elle s'est retrouvée en Bavière. D'autres se sont retrouvés dans d'autres coins de l'Allemagne. Mais ils sont arrivés, ils avaient ce qu'ils avaient sur eux au départ. Ils n'avaient rien. Et la Bavière, c'est un climat assez froid. L'hiver 14 en Bavière a été extrêmement froid. C'était des baraquements au départ en bois qui faisaient 100 mètres de long, 20 mètres de large. Il y avait un seul poêle. Comment on chauffe un baraquement en bois avec un seul poêle ?
Pas de parquet, terre battue ou paille qui grouillait de puces.
Voilà, de la paille qui était couverte de vermine et de la vermine qui était tellement présente. Il y a le passage donc, qui m'a été rapporté par des enfants donc, de rapatriés aussi. Le père de ces enfants jouait aux billes avec la vermine, tellement qu'elle était grosse dans le camp.
Alors j'aimerais que vous nous parliez du pain caca, les deux consonnes caca. Alors ne parlons pas l'allemand, je vous laisse le soin peut-être de nous dire ce que cela signifie.
Je pense que certains parlent mieux allemand que moi, mais je vais essayer d'être clair. Le pain caca, c'était le pain de guerre allemand. Le premier cas, ça veut dire Kriegs, guerre, et le deuxième, ça veut dire Kartoffeln, patate. Parce qu'on a commencé à manquer très vite, autant en France qu'en Allemagne, de blé. Et le pain caca, c'était du pain qui était à la base fait avec de la farine de pommes de terre. Mais c'était le pain des soldats allemands. Vous imaginez que le pain qu'on va donner aux prisonniers, autant militaires que civils, ne va pas être le pain qu'on va donner aux soldats allemands. Et on mettait tout ce qu'on trouvait. Alors il y avait de la sciure, des boyaux, des viscères. C'était un pain qui était immangeable de toute façon. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu énormément de satires françaises sur ce pain, des couvertures de l'illustration, des couvertures de magazines, des cartes postales, où on raille l'allemand, le soda allemand, bien sûr en jouant sur la consonance du pain caca.
Il faut aussi imaginer les autorités militaires allemandes un peu démunies aussi face à ces prisonniers français, parce qu'eux sont sur le front, mais il faut tout de même les garder, ces civils, on ne leur fait pas confiance, on les traite très très mal. Il y a aussi des Belges parfois, il y a des Belges, et puis quelques Russes un peu plus tard, des Russes.
Alors au départ, c'était des Belges qui ont été pris et emmenés dans les camps. Ensuite, le nord de la France a vécu ça, tout le nord, Valenciennes, Roubaix, Tourcoing, et tous les petits villages ont été déportés. Ensuite, au fur et à mesure de l'avancée des troupes allemandes, ça a été donc les civils lorrains, mais je parle toujours de la Lorraine française, qui ont été déportés. Quand on trouve d'autres personnes sur les camps, ce sont sur le camp donc, de ma grand-mère, il y a eu des Russes, mais c'était des militaires dans le camp qui était à côté, par contre.
Qui était très mal considéré, d'ailleurs, par les Allemands.
Tout à fait, très très mal considéré.
Alors, évidemment, on organise tout de même la scolarité des petits civils français dans ces camps. Il y a aussi tout de même, je ne dis pas que vous rendez hommage, mais vous mettez en valeur le rôle des abbés. Parce qu'il y a des abbés qui sont emprisonnés. Enfin, plus tard, ils seront placés dans des casernes avec les officiers français.
Tout à fait.
Mais ça rappelle le film La Grande Illusion de Renoir.
Tout à fait ça. C'est-à-dire que quand les gens ont été déportés, c'était des villages entiers. Et dans ces villages, il y avait les femmes, les enfants, les hommes qui n'étaient pas qui n'étaient pas mobilisés. Il y avait les infirmes, il y avait les prêtres, souvent. Donc, toutes ces personnes ont été déportées, mais n'ont pas été envoyées dans les mêmes camps. C'est-à-dire qu'ils ont séparé les femmes et les enfants, les vieillards, les jeunes qui allaient être mobilisés, les hommes qui étaient qui pourraient être mobilisés, c'est-à-dire qu'il y avait moins de 60 ans. Donc, les familles étaient éclatées dans les camps. Ils ne savaient pas si certains étaient morts, s'ils avaient survécu, dans quel camp ils étaient. Et il y avait ces fameux curés qui sont devenus les référents de ces civils qui étaient totalement démunis, qui étaient loin de chez eux, qui ne savaient rien de leur village, de leurs hommes qui étaient à la guerre. Et les curés ont essayé Bon, la religion était très importante. De toute façon, en 1914, l'Église avait une place prépondérante. Et les curés ont essayé d'apporter le réconfort qu'ils pouvaient aux civils qui étaient présents. Le temps où ils ont été dans les camps, parce que c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, tous les curés, tous les abbés ont été envoyés dans un camp qui était un camp pour les gradés. Ils étaient avec des prisonniers militaires gradés. Mais eux, de moins sur le camp de ma grand-mère, ont dit non, nous on veut retourner avec nos ouailles. Et ils ont réussi, obtenu au bout de quelques mois, à retourner dans le camp où il y avait leurs ouailles.
Alors, la petite Louise Collignon, bon, avait un papa qui, lui, était donc prisonnier.
A été déporté dans un autre camp à Tvikau, oui, qui est maintenant sur la frontière avec la République tchèque, et qui, lui, est resté beaucoup plus longtemps qu'elle dans les camps, puisqu'il n'a été relâché que quand il a atteint l'âge de 60 ans, puisqu'à 60 ans, on n'était plus mobilisable.
Voilà. Donc il a été relâché en 1916, alors que le calvaire, enfin, façon de parler, le calvaire de Louise et de sa maman s'est arrêté en 1915.
Elles sont revenues en France par la Suisse, puisque transité par la Suisse. Elles sont revenues début février 1915.
Évian, l'Isère, et puis ensuite,
l'Isère et le
à
Nord-Dron.
Nouveau accueillies, alors dans des villages français. La population les accueillait assez bien, jusqu'à ce qu'on les regarde.
Oui. Alors, il faut savoir, je ne sais pas si des personnes ici ont des origines lorraines, mais que les femmes lorraines sont des femmes de petite vertu et que les hommes, ce sont des ivrognes. Donc, les villages les ont accueillis au départ, plus ou moins facilement, mais devant l'afflux, on commençait à faire ce qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire on n'en veut pas chez nous. Envoyer les dents communes d'à côté, ils sont plus riches. Envoyer les désinfecter. Ou alors, certains commençaient à faire leur marché. Un maire disait, moi, je veux bien, mais envoyez-moi une femme de 40 ans, une fillette entre 10 et 12 ans. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire. Et certaines communes n'en voulaient pas, avec des mots très très durs. Il y a un maire qui dit « Je n'aurai aucune sympathie pour ces gens-là de la part de mes administrés. » On parle de Français rapatriés en France. On les appelait les Boches du Nord. Alors, dans une partie des villages, mais pas partout, ma grand-mère a été accueillie dans le Nord-Drôme, dans la vallée de la Galaure. Elle a été bien accueillie. Elle y a passé donc 5 années. Mais il y a d'autres villages où l'accueil a été terrible, vraiment terrible.
Et puis, on ne va pas tout raconter, mais c'est, enfin, on a, je crois, pas mal exploré et déroulé le sort de cette petite Louise Collignon. Pardon. Ce qui est intéressant, c'est le bilan qui est fait à la victoire des destructions de tous ces villages lorrains quasiment détruits. Là, on peut dire que la reconstruction est inévitable. Dans le petit village initial Herbeville, il y avait 178 bâtiments avant la guerre, et au 1er mars 1919, hein, on en fait un décompte, tous sont détruits. Enfin, il faut imaginer aussi le désastre de cette grande guerre.
Ils sont détruits, et c'est pour ça que les personnes ne peuvent pas retourner tout de suite sur place, et c'est pour ça que la guerre de Louise ne s'arrête pas en 1918, comme dit le titre du livre, mais en 1921. C'est en 1921 qu'elle a l'autorisation, je dis bien l'autorisation, de quitter la Drôme pour retourner en Lorraine. Parce que ces Français qui étaient rapatriés, et qui étaient donc rapatriés en France, ils avaient une carte de séjour. Ils n'avaient pas le droit de quitter le village dans lequel ils étaient rapatriés. Ils n'avaient pas le droit de quitter, d'aller à plus de 10 km du village. S'ils étaient pris, ils étaient envoyés en prison. Alors que c'était des Français rapatriés en France.
La guerre de Louise 1914-1921, parcours de déportés civils en Allemagne. Très beau travail de Sylvie Arnoux chez Entretemps Éditions avec une préface d'Annette Becker et avec le soutien de la mission du centenaire 14-18. Je mentionne aussi ce délicat petit roman hein, pour les moins de 10 ans. Là encore, c'est une petite fille qui découvre dans le grenier toute une correspondance qui date de la Première Guerre mondiale. Sylvie Arnoux, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît.
L'ouvrage de Sylvie Arnoux a pour titre « La guerre de Louise 1914-1921, parcours de déportés civils en Allemagne », c'est chez Entretemps Éditions avec une préface d'Annette Becker, un très bel ouvrage illustré de nombreux témoignages et de documents inédits qui bénéficie du soutien de la mission du centenaire 1914-1918. Bonne fin de matinée sur Radio Nice et Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour la table ronde du deuxième salon du livre de Blanzy que j'ai animé le 16 septembre. Septembre dernier en Saône-et-Loire. On se retrouve juste après cet intermède musical.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Alors Guy Paquit avec nous pour Petites Histoires. Là, c'est pas la grande histoire de la Grande Guerre, mais c'est des petites histoires du showbiz, anecdotes et souvenirs. C'est aux éditions Les Presses du Midi. Alors quand on lit le parcours de Guy Paquit, c'est marrant hein, parce que c'est tout des parcours. Hein, parcours de deux femmes, le parcours de Béatrice Romy, le parcours de Louise Collignon entre 1914-1921 et le parcours de Guy qui n'est d'ailleurs pas terminé. Guy, donc, comme nous l'a dit, né il y a quelque temps, belle année 2018 là. Hein
non, hier.
C'est ça.
Hier.
Et donc, né dans le Nord. Et alors, effectivement, 30 mois de service militaire en Algérie. Mmh. Ça, c'est pour le côté pas drôle. Et puis, la carrière de Guy Paquit. Alors, Elle est détaillée dans le livre à partir de la page 148, mais je liste un tout petit peu hein, pour que vous situiez bien le personnage hors du commun, là encore. En 70-71, hein, c'est les débuts, hein, Guy, hein, animation commerciale pour Cusnier Podium et RMC. En 72, animateur à l'émission Interdance de Joe Dana sur France Inter. En 72, toujours tournée d'été du cirque Spirou avec Jean Nohain, le ventriloque Jacques Courtois, la chanteuse Martine Avet et le cirque Zavata. 72, premier Olympia, présentateur avec Annie Cordy. Mm-hmm. 73, présentation à l'Olympia de Nicole Croisy et de Manitas de Plata. En 75, Guy Paqui, vous êtes manager du groupe Martin Circus. Mm-hmm. En 76, tournée avec les Martin Circus et Joe Dassin. Et là, vous rencontrez Patrick Sébastien, grand ami, hein, Patrick.
C'est mon petit frère.
Alors, Patrick Sébastien, il a un coup de foudre terrible pour une jeune femme magnifique, qui s'appelle Marie-Myriam, ouais, dont vous allez gérer la carrière.
Je suis le témoin de toute leur histoire, en fait. Patrick, on était en tournée avec Sardou. Les tournées de 76-77, qui ont été les fameuses tournées de contradiction. À savoir qu'on a eu le feu à des chapiteaux, on a eu des bagarres, on a eu... et la tournée, j'ai été marqué par Besançon, puisque cette tournée en 77 s'est terminée à Besançon, dans la mesure où on n'en pouvait plus. Quoi. C'était Besançon, il y a un commissaire de police qui s'est pris une bille en acier dans la gorge, tout bêtement parce que Michel, qui est un mec extraordinaire, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais... Un mot, un chat, c'est un chat, et il a eu le courage de dire ce qu'il pensait. Et notamment, quand à Troyes, il y a un monsieur qui a tué, violé un gamin, qui a donné son idée aux enquêteurs alors que le gamin était sous son lit, qui a échappé à la peine de mort dans la mesure où Badinter l'a supprimé, qui a été condamné à vie, à perpétuité, qui est sorti de prison depuis de 25 ans, qui s'est retrouvé comme étant accueilli par un imprimeur à Caen et doit être encore en tôle en Espagne pour trafic de drogue, etc. C'est un monsieur de Troyes qui s'appelait Patrick Henry. Et suite à cette opération-là, cette affaire-là, Michel a tout simplement chanté « Je suis pour ». Et là, l'interprétation, ça a été mal interprété. Dans sa chanson, Michel à aucun moment ne dit qu'il est pour la peine de mort. Il dit tout simplement... que tu touches, et moi je le dis aujourd'hui, j'ai une fille de 31 ans, le mec qui touche un cheveu à ma fille, il est mort. On appelle ça la loi du talion. Donc c'est pas la peine de mort, il ne faisait pas l'apologie de la peine de mort, il tout simplement, voilà, tu as tué le sang de mon sang, j'ai pas besoin de la justice, voilà. Et donc tout ça, ça a forgé le caractère. Mais il y avait quand même une très bonne équipe autour de tout ça, et notamment Patrick Sébastien, que je connaissais déjà en cabaret, et je m'occupais de lui sur cette tournée-là. Et un jour, on a fait un aller-retour entre Avignon et le lendemain Valence. On est remonté à Paris parce qu'il présentait avec Evelyne Leclerc la présélection de l'Eurovision. Et là, on a fait connaissance de toute une brochette d'artistes, dont une toute jeune qui s'appelait Marie-Myriam. Et là, Patrick, on le connaît mieux maintenant et on sait que c'est un personnage très particulier. Mais Marie, encore aujourd'hui, c'est l'amour de sa vie, ça c'est clair.
C'était il y a 40 ans, quoi, Marie-Myriam.
Ben, c'est 77.
Oui, oui.
C'est 77. Et partant de là, très vite, Marie a gagné l'Eurovision. Patrick s'est mis en ménage avec lui et là, il a souhaité que je m'occupe de sa carrière. Donc, je me suis occupé de Marie pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'ils se séparent tous les deux. Et que c'est très difficile quand même quand on est dans la vie de ces gens-là. Et quand je dis dans la vie, c'était au quotidien, quoi. C'est difficile. On n'a pas de parti à prendre, bien sûr.
Trop dans l'intimité, quoi.
On est trop. J'ai connu ça après avec Michel Sardou, où on vit 20 heures par jour ensemble. On n'a plus de vie. Moi, ça m'a coûté un divorce, mais bon, Inch'Allah, c'est la vie. Et par contre, c'est sa femme qui... Je le vois plus que sa femme. Donc, quand il y a quelque chose à demander, c'est à toi qu'on s'adresse, c'est pas à lui. Les enfants, papa nous a promis que tu peux lui en parler. Enfin, bon, c'est fabuleux sur le plan émotionnel, sur le plan relation. Et surtout, pour moi, si j'ai vécu ça, c'est parce qu'ils m'ont fait confiance. Et pour moi, ça, c'est capital.
Alors, je continue un petit peu, je déroule. Hein, parce que c'est époustouflant. Vous avez côtoyé Hervé Villard. Alors, il y a un passage très drôle. C'est le soir où Hervé Villard apprend la mort de Tito, qui était donc le dictateur de la Yougoslavie. Hervé Villard, qui avait un peu bu, fond en larmes. Ouais. Et vous vous demandez encore aujourd'hui
pourquoi
si Hervé Villard a vraiment pleuré parce qu'il était très triste et attaché à Tito. Ça, c'est assez drôle.
Ben, on venait de sortir, c'est en 80, on venait de sortir Reviens, et on passe une journée, on avait des galas dans le sud-ouest, et on passe toute une journée sur Radio Andorre, mais sur le Andorre, la vieille. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette route, pour maintenant ça a dû s'améliorer, mais en 80, c'était quand même assez coton. Et puis on était arrivé donc le matin à 10h, on était à Toulouse la veille, on arrive à 10h, l'émission démarre, et puis évidemment à 11h, ben, dans les radios, il y a le petit jaune, comme disent les chevaliers du ciel, il y a le petit jaune et Hervé ne boit pas. Ben, en réalité, il a bu un pastis, il en a bu deux, et à midi, aux infos, tombe
La nouvelle.
La nouvelle.
Donc de la mort de Maréchal Tito.
Maréchal Tito est décédé. Et là, Hervé fond en larmes. Et puis, bon, il a repris un pastis. Et puis, ça s'est passé comme ça. L'émission, ça s'est terminé à 18h. Et il était dans un état assez avancé parce que la mort de Tito l'a tellement bouleversé qu'il a continué à boire. Et le plus drôle, et quelque part, ça a été une très très bonne chose, parce que je me souviens à l'époque, d'ailleurs quand on est rentré, il m'a dit, je sais que t'aimes pas ma voiture, vends-la et va voir Barbe Olivier, il a un break américain, je veux le même. Et on est descendu d'Andorre, on avait rendez-vous chez un comédien qui s'appelait Michel Roux, qui était la voix de... Dans les deux mecs, je ne sais plus comment ils s'appelaient là.
Starkey et Hutch.
Non. Amicalement vôtre. Et Michel tenait un restaurant cabaret à Toulouse, donc on avait rendez-vous chez lui. Et on est descendu avec l'attaché de presse de chez Tréma à l'époque. On est descendu, donc la nuit commençait à tomber, dans une tempête de neige. Alors, descendre, toute cette descente, ça fait, je ne sais pas, 30-40 bornes quand même. Hein. C'est une route, c'est la montagne, quand on descend la montagne, il n'est pas à cheval. Et moi, j'avais peur dans la palace, c'était trop souple. Je ne me sentais pas à l'aise dans cette voiture. Et quand il a rien vu. Il a pleuré dans les bras de ma femme qui m'accompagnait. Pendant tout le voyage, il n'a pas vu qu'il était tombé un flocon de neige. Et Michel Roux, quand il l'a vu arriver, il n'a pas compris non plus pourquoi il était dans cet état-là. Et puis bon, après, ça s'est passé quand même.
Alors, Michel Sardou, vous avez été secrétaire, chauffeur aussi de Michel Sardou.
Disons que Michel, j'ai collaboré pendant 6 ans avec lui.
Donc dès 81.
Sur les tournées. Et puis en fin 80, donc quand Hervé assez régulièrement partait en Amérique du Sud, il avait un appartement à Rio à l'époque, et quand il partait, bon, toi t'es en stand-by, t'attends que ça se passe. Mais comme je travaillais également entre deux avec Enrico, puisqu'on avait c'était la même équipe, c'était le même manager, même maison de disques, c'est-à-dire très mal les mêmes productions, Camus Coulier. Donc Hervé partant, Michel était en train de restructurer toute son équipe, et il dit à son agent Vic Talard, il dit, écoute, Hervé vient de partir, je sais que Guy est disponible, je le veux avec moi. Donc ça s'est fait en l'espace de 2 coups de fil, et là je me suis retrouvé mais carrément dans sa vie intime. Mais c'est que du bonheur quand vous êtes dans le bureau de Jacques Revaux et qu'il commence à placer un accord sur un grand piano blanc, et que 6 mois après vous assistez au mixage du Connemara.
Guy Paqui, à l'instant, à l'occasion de la table ronde du deuxième salon du livre de Blanzy, avec petites histoires du showbiz, anecdotes et souvenirs. C'est une 60aine d'années de souvenirs, d'anecdotes, de projets, de réussites, d'échecs, de joies et de peines, d'émotions et d'amour dans ce milieu du showbiz. Guy Paqui, musicien, animateur, présentateur de spectacles, pour se consacrer ensuite à la carrière d'autres chanteurs, le groupe Martha Circus, le groupe Gold, Marie Myriam, Michel Thor, Patrick Sébastien Hervé-Villard et Michel Sardou. On retrouve Guy Paqui juste après la pause musicale que nous vous proposons. Bonne fin de matinée sur Radio Anne, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci à vous de nous suivre fidèlement chaque samedi matin sur Radion, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour aujourd'hui la diffusion de l'enregistrement d'une table ronde organisée par l'association Mine de Lire lors de son salon du livre à Blanzy. C'était le 16 septembre dernier. Retrouvons tout de suite Guy Paqui. Guy Paqui qui signe Petites histoires du showbiz. Un livre qui fourmille d'anecdotes et de souvenirs. Guy Paqui, musicien, animateur, présentateur de spectacles et qui a géré les carrières notamment de Marie Myriam, de Michel Thor, d'Hervé Villard, de Patrick Sébastien ou encore de Michel Sardou. D'ailleurs, Guy Paqui tout de suite évoque le chanteur Richard Anthony. Guy Paqui, un autre
micro. Il avait une très très mauvaise réputation. Parce que moi, je l'ai connu en réalité, je l'ai rencontré la première fois en 67. Et puis, je l'ai vraiment approché et je l'ai vraiment présenté une première fois en 70. C'était d'une fête pour le journal de, je sais plus, Vermont-Luçon. Et à l'époque, Richard, c'était quand même une, j'aime pas le terme star, mais bon, il fonctionnait. Et il avait son avion qu'il pilotait lui-même, etc. Il est arrivé à Montluçon, il s'était trompé d'aérodrome. En réalité, il est arrivé avec 2 heures d'attard. Et à l'époque, il y avait un comédien humoriste, il s'appelait Jacques Harry, et un groupe de chanteurs lyonnais qui s'appelait les 5 saisons, je crois, ou un truc comme ça. Et ça, c'était la première partie. Et quand on m'annonce que Richard a du retard, vous avez 3000 personnes qui l'attendent, et on ne peut pas dire allez vous promener, il va revenir dans 2 heures, il est en retard. Donc il faut tenir la... Alors pendant 2 heures, plus de 2 heures, avec Jacques Harry, on amenait la danse. Là, il y a intérêt à avoir du bagou. Et Richard est arrivé. Alors je ne sais pas, son secrétaire de l'époque était Claude Bécu. Je ne sais pas ce qu'il a pu lui dire, si ce n'est qu'il m'a pris à part pour me remercier. Et il s'est passé quelque chose. Il a escroqué dans ce métier un paquet de gens. Moi, je n'ai que du bien à dire de lui. Il m'a fait que des cadeaux. Jusqu'à la fin, je lui ai produit une tournée en 2001-2002. Il n'est jamais arrivé en retard. Il n'a jamais bu une gueule d'alcool. Il a... Donc voilà. Et quand j'ai monté la tournée, la majorité des agents ne voulaient pas. On disait, non, on a eu trop de problèmes avec lui, on n'en veut plus. J'ai dit, mais écoutez, je suis avec lui. Ah bon, alors on te fait confiance, on sait que ça se passe. Et ça s'est toujours bien passé. Et on s'est retrouvés ensuite, on l'a eu pendant 2 saisons sur Achetant des têtes de bois, que j'ai fait pendant 9 ans.
Alors, vous avez été le manager aussi du groupe Gold. Ça a été une aubaine dans votre carrière. Bon, c'est...
Ouais.
En revanche, alors il y a plein d'anecdotes. Par exemple, Carlos au supermarché, l'épisode du caddie. Je trouve ça assez drôle quand on connaît
ouais, alors,
Big Bisou.
C'est très drôle, Yannick. Et c'est pour moi, c'est pour ça que je dis la vie. Je ne sais pas comment l'expliquer. On parle de karma. Moi, je ne sais pas d'où il vient le mien, mais je pense que j'ai toujours eu énormément de chance dans ma vie, et notamment à l'époque de Carlos, j'étais avec Patrick, Sébastien, et la naissance du bouquin. En gros, elle démarre là. À savoir que tous les lundis, on avait rendez-vous au 35 de la rue Marbeuf, qui était le siège de toute la famille Marouani. Les frères Marouani, les cousins Marouani. D'ailleurs, Charlie Marouani, qui était le manager, agent de Brel. Quand Brel, il a déclaré à plusieurs reprises, « Quand j'ai des insomnies, pour m'endormir, je compte les Marouani. » Et donc, on avait rendez-vous tous les lundis pour faire les comptes de notre week-end. Et puis un lundi avec le secrétaire de Carlos, qui avait, avant Carlos, jusqu'à sa mort, avait été le secrétaire de Claude François. Et avec Gérard Minchella, on discutait de ce qu'on avait vécu. Moi, avec Patrick, c'était jamais triste. Lui, avec Carlos, je t'en parle pas. Et quand ils étaient ensemble, là, c'était le feu d'artifice. Et puis, à partir de là, on s'était mis en tête de créer une association qui regrouperait une dizaine de personnages qui gravitaient autour des vedettes. On se fixerait un rendez-vous tous les mois pour se faire une bonne bouffe, et on se raconterait ce qu'on a vécu avec nos vedettes. À la fin de l'année, on mettait ça dans les mains de quelqu'un qui savait écrire, bien qu'on savait écrire nous-mêmes, et qui mettait ça en page, et de sortir un bouquin. Et là, à notre table, il y avait Charlie Marouani, qui à l'époque s'occupait de Reggiani, de Becco, etc. Et Charlie, qui m'aimait beaucoup, il me dit, écoute, l'idée est certainement très bonne, mais je pense que vous êtes un peu jeune, alors si je peux vous donner un conseil, attendez d'être à la retraite, et surtout, trouvez-vous un bon avocat. Alors on a suivi ses conseils. Moi, j'ai attendu 40 ans de plus, ça veut dire que j'ai 40 ans d'expérience en plus, puisque c'est vrai qu'à l'époque, j'avais mes débuts, mais je n'avais pas tout ce que j'ai collecté derrière. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand j'ai commencé à écrire ce livre, je voulais le partager avec d'autres, et j'ai fait appel à des amis. Il y en a quelques-uns, il y en a une vingtaine qui ont participé, qui m'ont ramené des anecdotes, et j'ai recherché Gérard Michelin et un foutu de retomber dessus. Et bon, et là, il y a 3 semaines, sur Facebook, je reçois un petit mot par Messenger en me disant « Guy, je viens de lire ton livre, je regrette qu'on ne s'est pas retrouvé plus tôt. » Il m'a retrouvé, lui, et pour raison que je ne pouvais pas le savoir, c'est qu'après, à la mort de Carlos, il en avait marre de cette ambiance de métier, il a tout arrêté, il a monté une crêperie à Paris, puis il en a monté une deuxième, il en a monté une troisième, et il s'est arrêté à la sixième, il a pris sa retraite et il vit peinard en Normandie. Donc, normalement, le 25 septembre, on se voit à Paris.
Et puis, donc, le tout dernier que vous avez fait paraître, ça, c'est un comble. Comment ne pas se prendre au sérieux ? Là, ce sont des histoires.
Ouais, là,
c'est le comble. C'est...
Oui, parce que bon...
Le comble pour un tennisman souffrant d'aérophagie, d'avoir de bons renvois. Voilà, c'est Guy Paqui et les petites histoires du showbiz. Alors, anecdotes et souvenirs.
Si on a deux secondes.
Deux secondes.
C'est fini, l'histoire des blagues. Bon, ça, c'est le genre de truc. J'ai écrit un bouquin, La mort de mon ami Garçu mort, également d'histoires pour aider sa veuve. J'avais écrit pour, au profit du sida déjà un recueil d'histoires. Et là, chaque chose a son comble. Donc, je m'amusais à écrire ça sans aucune prétention. Et puis, en parlant avec mon éditeur, il m'a dit « Ah, ça pourrait m'intéresser, tu envoie-moi le manuscrit ». Quand je lui ai envoyé le manuscrit, il me dit « Oui ». Et là encore, avant-hier, je l'ai eu au téléphone. Et il me dit « Je l'ai sur mon bureau, entre deux coups de fil, je plonge la tête dedans ». Donc, a priori, ça lui plaît. Et toujours est-il qu'il me dit « Par contre, c'est une ligne, le compte 2, la réponse, le compte 2, la réponse. Le... » Donc, 130 pages comme ça, ça pouvait paraître fastidieux. Ils me disent, ce qui serait bien, c'est de l'illustrer. Pour illustrer, je fais quoi ? Je passe sur ma page Facebook l'idée, voilà, j'écris un bouquin sur les combles, etc. Je cherche quelqu'un pour l'agrémenter de dessins. J'ai une amie de Chalon qui m'appelle et qui me dit, vous connaissez peut-être, son papa s'appelle Jean-Pierre Jourdier, accordéoniste. Et elle me dit, écoute, papa a un très très bon copain qui est caricaturiste, je te donne ses coordonnées, appelle-le, ça risque de lui plaire. Et c'est un monsieur qui s'appelle Roger Tisselin, qui dessine sur le nom de Roth et qui est toutes les semaines dans le journal de Saône-et-Loire où il refait toute l'actualité de la semaine. Donc j'ai appelé Roger, puis je lui explique le truc et il me dit, ben, envoyez-moi votre manuscrit. J'envoie le manuscrit. Le lendemain, il m'appelle, il dit, écoute, au fur et à mesure que je lis, j'ai l'impression de les avoir écrites. Il me dit, va sur mon blog pour voir les dessins que je fais. Et là, je découvre la vache, pas folle, et je lis le truc. Et au fur et à mesure, je regardais, je dis, tiens, ça, j'aurais pu le dire, ça, j'aurais pu l'écrire. Ça... Moralité, on s'est... Tout s'est imbriqué d'une façon extraordinaire. Et on a terminé le bouquin en l'espace de 3 semaines. Quand il m'a parlé du festival d'où je reviens, ça se termine ce soir, il a donc à Paris, c'est le Paris ça de la gueule. On a décidé, j'ai boosté mon éditeur pour que ça puisse sortir dans le cadre du festival. Donc il est tout frais, je l'ai reçu il y a 3 jours. Et le gros gag, c'est que, comment dire, on a fait une soirée en plus avec un parrain qui est Pierre Douglas, et j'ai une dédicace super sympa de mon vieux copain Gilou, l'accordéoniste de Pierre Perret, qui détient un record inégalé dans le métier. Ça fait cette année 54 ans qu'il accompagne un artiste. Après, bon, je veux bien, il y a, comment ça s'appelait, licence 4, etc.
Ah oui, et voilà. Gilou avec son petit accordéon.
Voilà, hein, et le Gilou avec sa petite accordéon, ben là, puisqu'on est sur la région, le 15 novembre, c'est la sortie du Beaujolais.
Oui.
Alors, Gilou sera dans une petite auberge, je ne sais pas très, ou dans la région, le soir. Par contre, en accord avec le directeur du Leclerc de...
Non mais Guy, vous avez fini de faire la promo de tout le monde, là.
Voilà, non mais justement, ils vont venir nous voir. Parce qu'on va se retrouver avec Gilou, avec Roger, en dédicace au Leclerc pour la sortie du Beaujolais le 15 novembre, à Paray-le-Monial.
Petites histoires du showbiz, anecdotes et souvenirs de Guy Paqui. Alors, il y en a plein, hein, Linda de Souza, ah oui, Francis Cabrel, à qui vous faites faire la manche à Carcassonne. Il y en a plein. C'est
il a ramassé 6 francs quand même. Hein.
Oui. Merci beaucoup. Un petit applaudissement pour Guy.
Merci, merci Yannick.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Babe, get on my Cadillac.
Oh no, I wanna dance my cha-cha.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Sans plus tarder, la suite de la table ronde du Salon du Livre de Blanzy que j'ai animée le 16 septembre dernier lors du Salon du Livre Mine de Lire en Saône-et-Loire. Dernier intervenant à ce Salon du Livre, Béatrice Romy, pour un récit très très personnel intitulé « Une vie hors du commun, payons-nous le karma de nos ancêtres ». Faisons, si vous le voulez bien, d'abord connaissance avec Béatrice Romy.
Je suis née dans une ville pas loin d'ici qui est Le Creusot et mon histoire se situe donc dans cette ville ainsi qu'à Beaune et à Centenay, où mes ancêtres sont de Centenay. Voilà. Donc, mon parcours, effectivement, il est tout à fait hors du commun. On peut avoir une, deux, trois épreuves, mais les miennes sont successives et totalement impensables. Et il est vrai qu'à un moment donné, d'où payons-nous le karma de nos ancêtres, je suis revenue un peu sur leur vie, qui était aussi un peu hors du commun. Totalement différente, mais très récurrente aussi.
Alors, il est vrai que l'histoire familiale peut paraître un peu compliquée. Déjà, il y a une figure dominante, c'est la figure maternelle, votre mère,
oui.
Honorine, qui n'est pas un personnage très sympathique. Quand nous, neutres, totalement à l'écart de cette famille, quand on le découvre sous votre plume, c'est la réalité, vous n'avez rien transformé.
Absolument.
C'est un véritable récit.
Et encore, je l'ai minimisé. Le rôle, j'ai minimisé.
Alors, en fait, en fin de compte, vous aviez un frère qui se prénomme Gauthier.
Oui.
Vous avez maintenu le... C'est son véritable prénom ou vous avez changé ?
Non, étant donné que c'est une autobiographie, tous les prénoms sont changés.
D'accord. Et ce frère est adoré de sa mère et vous,
oui.
Vous semblez ne pas compter. Vous êtes le vilain petit canard de cette famille.
On va dire ça en quelque sorte, mais ce n'est pas ce qui a déterminé ma vie future. Je dirais ça a été le rôle de ma mère surtout. Et puis après, au fil du temps, les événements qui se sont greffés par-dessus.
Alors, vous avez quand même une enfance malheureuse. Je veux dire, je ne voudrais pas rendre votre texte trop larmoyant, mais on peut dire que c'est extrêmement pesant à lire. Ce n'est pas du tout déplaisant, mais on est dans votre vie que l'on partage à travers ce que vous nous en dites. Mmh. Et moi qui vous connaissais joyeuse, radieuse, élégante pour vous avoir aperçue dans différents salons du livre, j'avais beaucoup de mal à penser que vous aviez traversé autant d'épreuves qui auraient pu en décourager plus d'une ou pousser une jeune femme aux pires solutions.
Je pense justement ce qui fait aussi la force de ma propre force, je l'ai aussi mise dans mon livre en sachant que j'en ai pas fait une thérapie, c'est-à-dire que j'ai su comprendre, grandir, évoluer et en faire une force. Aujourd'hui, voilà, je suis assez fière de ce que je suis effectivement par rapport au parcours que j'ai eu.
Alors, cette mère, elle vous déteste, est-ce qu'elle est jalouse de vous ? Qu'est-ce qu'elle vous reproche ?
Je ne sais pas. Effectivement,
elle vous reproche d'aimer les garçons un peu trop jeunes, déjà.
Peut-être pas vraiment ça, mais certainement qu'il y avait quelque chose de... Ou alors le fait d'être une femme et qu'elle, elle n'a pas vraiment été heureuse en tant que femme aussi, a fait une certaine distance, je ne sais pas.
Alors, il faut dire aussi que votre père a une maîtresse, elle a un amant, rien ne va dans cette famille.
Du tout. On va résumer ça comme ça. Mais ça va bien au-delà de ça.
Gauthier, votre frère, abuse de vous alors que vous êtes une petite collégienne de 11 ans. C'est bien cela. Et ensuite, vous rencontrez alors un homme que vous allez épouser. C'est Ivan, qui est un bel homme d'origine ukrainienne. Vous avez 15 ans quand vous le rencontrez.
15 ans et demi,
et vous dites, c'est mon seul et unique premier amour. Et pourtant, ça cassera avec Ivan.
Parce que j'étais très jeune et il correspondait à l'époque, il avait une famille très unie et j'étais vraiment amoureuse de lui. Maintenant, au fil du temps, ben, il y a eu une différence intellectuelle qui a fait que lui restait relativement primaire. Moi, sans vouloir parler d'intellectuel, j'avais quand même une certaine
sensibilité
où j'ai beaucoup évolué et à un moment donné, nos chemins étaient assez distanciés.
Alors, vous avez travaillé...
J'ai quand même été mariée 21 ans.
Ah ben, moi, je ne vous ai pas reproché d'avoir quitté le bel Ivan. Hein. Les histoires d'amour ne durent pas, Béatrice. Vous êtes
voilà,
d'accord ?
Tout à fait.
Bon. Vous avez travaillé dans différentes usines, les usines d'Im à Épinac. Vous avez travaillé à Autun.
Oui.
Vous êtes une bonne ouvrière, au point même qu'un jour, il y a la télévision allemande qui vient faire un reportage, je suppose, sur le textile français.
Absolument.
Et c'est vous que l'on filme Vous avez revu ces images ?
Non.
Elles doivent exister dans les archives ?
Ah, certainement. Comment savoir aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais j'ai une très belle dextérité.
Et vous avez été plieuse, alors je ne sais pas si ça parle pour le public local, vous avez été plieuse chez Jacquard au Creusot.
Oui, les chemises Jacquard, avec les épingles et les boutons, ça, un bon souvenir.
Alors, vous allez épouser Ivan. C'est vrai que vous avez tout de même beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Ivan, lui, bon, il a un physique de rugbyman.
C'est un rugbyman.
Il est ébéniste. Et vous allez devenir mère. Ça aussi, c'est un élément très, très fort de votre vie. Ça, c'est un des bonheurs de la vie. À côté de toutes les horreurs du frère, admiré, adoré par sa maman, et qui pourtant frappe son père... qui a abusé de vous très jeune. Vous avez pardonné à votre frère ?
Oui, complètement. Alors, quel que soit le parcours que j'ai eu avec des histoires encore bien pires que celle-ci, j'ai tout le temps pardonné. Mais chez moi, j'ai jamais cette rancœur de repenser au passé. Je ne suis pas du tout passéiste, donc j'avance.
J'aimerais que vous reveniez sur un élément que je trouve un petit peu... trouble ou flou, c'est un jeu de mots, parce que vous dites que vous êtes pourvu d'un don de voyance.
C'est vrai. Avec toutes les épreuves que j'ai, je suis capable de faire abstraction de mes propres soucis puis d'aider les autres. Dans le sens que j'ai cette faculté d'être là au moment où il faut dans la vie de personnes qui ont des problèmes peut-être insolubles. Et puis moi, je trouve une solution.
Alors, concernant la mort d'un de vos aïeux, vous dites qu'il y aurait déjà une mort suspecte dans la famille.
Oui.
De même que la mort de votre maman peut paraître étrange puisqu'on retrouve son corps dans un fossé, dans un bois.
Dans la forêt de
Je dis pas que quelqu'un l'a tué, mais vous laissez entendre que sa mort est surprenante.
Oui, elle l'est. De toute façon, elle l'est.
Alors... concernant le don de voyance, j'aimerais que vous en disiez un petit peu plus.
Alors, dans ce cadre-là, par rapport à mes proches, je n'essaie pas d'en savoir plus. Surtout dans ce domaine-là. Je ne veux pas savoir. Je pense que je le sais, mais je ne veux pas le savoir. Quand on lit le livre, on comprend. En relisant, on comprend la finalité.
Ceci dit, vous n'avez pas tout bien perçu, parce que, par exemple, le petit ami de votre fille va bouleverser complètement votre existence.
Ah, je l'avais quand même rêvé au préalable. Anticipé, si. Mais
alors, expliquez
après...
un peu ce qui se passe, parce qu'il y a un horrible personnage qui rentre dans la vie de votre fille. Bon, l'amour rend aveugle, là on est très loin de la voyance.
Elle a 25 ans. Alors, on ne va pas dire que c'était une histoire d'amour. Je pense que c'était à une époque où elle divorçait et qu'elle est tombée sur le chemin de quelqu'un de très fort qui est un escroc, sous toutes les formes. Et malheureusement, elle était dans une forme de déception de son mariage et qu'il est arrivé au bon moment et qu'ils ont les arguments pour... Ils sont quand même très très forts pour retourner le cerveau de quelqu'un. Même si on intervient, ça ne sert à rien. Sauf qu'il faut être là tout le temps jusqu'au bout et pouvoir sauver son enfant.
En fait, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que votre fille a tout de même failli être envoyée au Maroc.
Oui.
pour y être prostituée par ce garçon qui était à la tête d'un réseau de fausses monnaies, si j'ai
tout
bien
à fait.
Noté.
C'est pour ça qu'on ne l'a pas arrêté, même à la suite de l'histoire qui était quand même très dangereuse pour notre famille. Mais comme il faisait partie, il était le troisième maillon d'un réseau de fausses monnaies. Il y a un système de justice aujourd'hui qui fait qu'on donne priorité à ça et non pas à la vie d'une famille. Voilà.
Et puis tout de même, on a saboté votre voiture. C'est-à-dire que ce garçon, ami de votre fille, a essayé de vous donner la mort.
Oui, sur mon propre véhicule qui couchait sur un parking public à l'époque. Et donc on a scié la direction aux trois quarts et j'ai fait X kilomètres. Et au premier virage, ma voiture est partie en toupie. Et voilà, voiture en épave et tout ce qui suit.
Alors, il y a ensuite, vous rencontrez, c'est bien sûr après le divorce d'avec Yvan, vous rencontrez un homme qui va s'avouer être un profiteur, un parasite. Ah. Et vous écrivez, alors pardonnez-moi Béatrice, Guy, écoutez bien, la phrase a dû vous marquer puisque vous avez lu le récit de Béatrice, c'est page 135. « Mon existence ne me permet pas d'avoir une bonne image de la gente masculine ».
Oui, quand on cumule quand même entre l'image de mon frère, l'image de mon père, etc., à un moment donné, c'est-à-dire que cet homme-là, il était très bien, c'était un ingénieur, il était intelligent, il n'avait pas de lacunes, il connaissait les philosophes, la grande musique et tout ça. On avait un partage qui était absolument sensationnel, mais il avait un énorme défaut que j'ai su plus tard, c'est que c'était un mythomane. Qu'il a commencé à me dire qu'il n'était pas marié. J'ai découvert au bout de 4 ans qu'il était marié, 3 enfants, etc. Et bon, on voit dans le sujet que c'est quelqu'un qui... C'est une vraie maladie, je pense, la mythomanie. Et découvrir ça, ça donne un choc terrible parce qu'on a confiance en la personne. Et voilà. Alors moi, je ne vivais pas avec... J'étais pas... J'ai jamais été dans... Étant pas menteuse moi-même, moi, j'ai jamais essayé d'en savoir plus. Voilà.
Alors néanmoins, payons-nous le karma de nos ancêtres ? Question sous-jacente par rapport à cet ouragan de souffrance, parce que la vie ne vous a pas épargné, quand bien même socialement vous êtes une battante.
Oui, je suis quelqu'un de très positif tout le temps.
C'est la leçon, et ce qui est beau, c'est à la fin de votre texte, c'est cette douceur et ce regard sans haine et sans vengeance que vous jetez sur votre passé, sur les membres de votre famille qui pourtant vous ont nui, pardonnez-moi Béatrice, mais vous ont terriblement nui. Oui. C'est très choquant quand on lit cela.
Je ne sais pas. Moi, en tant que lecteur, j'ai eu beaucoup de retours où les gens, effectivement, qui me connaissent sont complètement étonnés que ça puisse être mon parcours à moi parce que je ne colle pas à l'image de quelqu'un d'abattu, de triste et tout ce qui suit. Mais après, le lecteur, selon ce qu'il ressent, je pense qu'il y a pas mal de personnes déjà ici qui l'ont lu.
Enfin, nous en avons dit déjà beaucoup, mais ça situe les grandes lignes de cette vie hors du commun, récit autobiographique de Béatrice Romy. Payons-nous le karma de nos ancêtres, c'est aux éditions Baudelaire. Et puis vous aviez eu également, Béatrice, la gentillesse de me faire parvenir la vie en couleur pastel. Alors c'est aussi une autre facette des talents de Béatrice Romy que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît.
Merci. Merci. Merci Yannick.
Ce numéro de Wagon Livre touche à sa fin. C'était donc aujourd'hui la diffusion de la table ronde du 2e Salon du Livre de Blanzy en Saône-et-Loire, enregistrée le 16 septembre dernier. Vous pouvez bien sûr retrouver les noms et les références des ouvrages dont il a été question dans cette émission sur le site d'archives de l'émission, en pianotant via internet le www.yannickpetit.fr. Je rappelle donc les ouvrages qui ont été évoqués lors de cette table ronde. D'abord, La guerre de Louise, 1914-1921, Parcours de déportés civils en Allemagne de Sylvie Arnoux, c'est chez Entretemps Éditions. Rappelons à l'instant Béatrice Romy pour son récit « Une vie hors du commun, payons-nous le karma de nos ancêtres ». Et enfin Guy Paqui pour « Petites histoires du showbiz, anecdotes et souvenirs » aux éditions des Presses du Midi. Et le petit dernier de Guy Paqui, toujours aux Presses du Midi, intitulé « Ça, c'est un comble, comment ne pas se prendre au sérieux ?» avec des illustrations du caricaturiste Roth. Je vous donne rendez-vous bien sûr samedi prochain, samedi 20 octobre, toujours sur Radion à partir de 11h pour un nouveau numéro de Wagon Livre qui sera consacré au compte-rendu de la 11e édition de Livres en Vigne qui s'est tenue les 22 et 23 septembre dernier au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. Nous aurons l'occasion de vous proposer un florilège d'interviews de ces auteurs rencontrés lors de ce très beau salon au cœur du vignoble bourguignon. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.